Donc, depuis le début, on a vu différents sujets qui concernent la famille, puis on vous a distribué un petit papier si vous voulez noter des sujets en extra ou qu'on pourrait approfondir pour dans 2 semaines. Donc, on a vu l'origine de la famille, le rôle des époux, l'ambiance familiale, puis 3 sujets qui concernent les enfants, l'éducation, l'instruction, la correction, le service dans l'Église, la gestion des finances, la sexualité et... Cette semaine, on voit le rapport avec la société, le rapport à la société. La semaine passée, à la leçon 9, même si je n'étais pas là, je l'ai écouté sur notre site Internet, un petit résumé, c'est que la sexualité a été créée par Dieu, donc c'est une bonne chose, que Dieu a prévue dès le début dans la création, pour l'union du couple, pour le bonheur du couple, pour l'amour conjugal et pour la procréation. Mais si on respecte l'ordre créé, la sexualité devrait être réservée aux couples mariés. Mais la chute a corrompu le domaine de la sexualité, puis les êtres humains ont tendance à agir contre la volonté de Dieu dans ce domaine, en étant très créatifs, mais en défiant le Créateur. Mais la rédemption en Christ, elle purifie le chrétien, donc c'est possible de retourner à une sexualité qui plaît à Dieu. La sexualité et le mariage peuvent être sanctifiés. À propos de la sexualité, ce qui a été vu, c'est que le chrétien doit souvent adopter un comportement qui est contraire aux pratiques dans la société. Il y a plusieurs déviations qui ont été nommées. Donc, quand on est chrétien, automatiquement, c'est comme si on nage à contre-courant, là, souvent, dans le domaine de la sexualité. Si on discute avec nos voisins, nos collègues de travail qui ne sont pas chrétiens, ou même des membres de la famille, ils vont dire des choses qui vont nous faire friser les oreilles. Et nous, quand on va dire des choses, ça va les surprendre aussi. Puis, ça va justement avec le thème d'aujourd'hui, non seulement dans le domaine de la sexualité, mais dans tous les domaines, notre rapport à la société. On va voir 3 aspects. D'abord, que le chrétien vis-à-vis de la société, la Bible en parle, surtout dans... Bon, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup dans l'Ancien Testament aussi, mais on va se concentrer plus sur le Nouveau Testament. Ensuite, le sujet des fréquentations, des amitiés. Pas seulement les fréquentations amoureuses aussi, là, mais qui on côtoie. Et l'espérance qui distingue le chrétien. C'est supposé d'avoir un gros impact dans nos vies. Donc, commençons par le chrétien versus la société. On va ouvrir nos Bibles et aller lire un passage qu'on a étudié récemment dans le culte. Jean 17, 13 à 17, c'est un volontaire qui peut nous le lire. Si on ne va pas avec le courant du monde, on va avec quel courant? C'est vrai. Comme on lit dans Galates, on ne marche plus par la chair ou selon la chair, mais on marche par l'esprit. Il va nous transformer. Donc, si on résume ce court passage ici, donc c'est ça. Nous sommes toujours dans le monde. Moi, je suis un citoyen même de l'arrondissement de Rosemont, mais même si je suis un Rosemontois officiellement, mais je ne suis pas du monde. Pas la pensée. Puis il y a beaucoup de pensées dans Rosemont particulièrement qui sont différentes des chrétiens. Même s'ils sont plus de gauche, là, puis qu'ils pensent à la population, mais c'est Québec solidaire aussi, NPD. Mais il y a beaucoup de principes là, que les chrétiens ne peuvent pas appuyer. Nous ne sommes pas du monde, nous n'appartenons pas au monde. Nous avons été retirés. Et nous possédons la vérité, c'est ce qui nous distingue. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, on a vraiment le guide parfait là, qui nous sanctifie, qui nous rend saints, qui nous permet d'avoir une marche qui est sainte aux yeux de Dieu, mais qui nous sépare du monde aussi. Même dans le contexte, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas du monde. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Dans le royaume de la lumière, nous sommes éclairés. Et c'est la vérité qui nous éclaire. La vérité de Jésus. Jésus lui-même est la vérité. Donc ça nous distingue du reste de la population. Un passage qui est complémentaire, c'est dans 1 Jean 2. Quelqu'un peut nous lire? On sort de Jean, puis on est dans 1 Jean 15 à 17. Chapitre 2, verset 15 à 17. Oui, donc ce qui ressort ici, de façon surprenante pour ceux qui lisent ce passage-là pour la première fois, là, c'est de ne pas aimer le monde. Alors, c'est ça, c'est paradoxal. Là. On aime les gens dans le monde, mais on ne peut pas aimer le monde lui-même. Oui, Sébastien?
C'est juste, j'entendais tantôt, on a la vérité. On ne pourrait pas remplacer ça par nous recherchons la vérité, la parole de Dieu.
C'est ça.
Hein? C'est des fois, ouf, personnellement, quand on est convaincu d'avoir la vérité et non pas qu'on recherche la vérité, on est peut-être fermé à la vérité à un moment donné parce qu'on pense tout connaître. C'est facile de tomber dans le...
Oui, tu as raison. Ce que j'avais en tête, c'est plutôt qu'on a la vérité à notre disposition.
Oui.
Mais on l'a. C'est ça. On ne l'a pas nécessairement dans le cœur ou on peut se tromper.
Parce qu'on vient qu'on n'écoute plus la personne avec qui on a un échange. Parce qu'on est tellement convaincu qu'on n'entend pas ce que la personne. Des fois, pour avoir passé avec E, des fois, je trouvais tellement que des fois, le système est extraordinaire là, comme guide. Mais si on fait juste s'en tenir à ça, on n'entend plus la personne, on n'est plus dans une relation avec la personne. On est.
Ouais.
Je sais pas si tu comprends ce que je
veux dire.
La personne, tu vois dans ses yeux qu'on l'a perdu parce qu'on n'a jamais répondu à sa question. On a continué à aller dans une vérité pourtant, mais on n'a pas.
Ouais, c'est vrai. Par rapport au monde, il y a une description assez éloquente là, dans Éphésiens 2, 1 à 3. Il dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde. » On parlait là, qu'on ne suit plus le cours du monde. Là. Bien, tous, et nous étions de leur nombre, quand on marche selon le cours du monde, dans le cours du monde, c'est qu'on est morts par nos fautes et nos péchés. Yeah, c'est grave. Selon le prince de la puissance de l'air. Donc, c'est selon même Satan, la séduction de Satan, la corruption de Satan. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, ceux qui suivent ce cours-là, qui sont influencés par Satan, sont rebelles à Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans le monde, c'est ce que les gens vont dire, il faut que tu suives ton cœur. Mais notre cœur est corrompu et rebelle. Et séduit par Satan. Et est sujet à la colère. Il y a beaucoup de domaines de la vie où le chrétien doit être différent du reste de la société s'il veut plaire à Dieu. Et comme disait Marcel... Il a presque paraphrasé Romains 12, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, à la base, si on n'est pas reprogrammé, ce qu'on pense être bon ne va pas plaire à Dieu. Ce n'est pas bon. Il faut absolument être transformé. Et ça, bien, c'est le Saint-Esprit qui opère ça en nous. C'est sous-entendu ici. Il faut être transformé. Donc, c'est la forme passive, là, c'est l'esprit qui nous transforme. Mais il faut le laisser faire par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça, selon vous, ça inclut quel domaine, par exemple, de la vie? Où est-ce qu'on doit être transformé? Bonne réponse. C'est vrai. Ah oui, c'est ça. Dans les affaires, il n'y a pas d'amis. Ben, c'est tentant, puis normalement, on ferait la même chose. Hein, mais... Moi, dans mes lectures quotidiennes, je suis dans Lévitique. Puis, dans Lévitique 25, Dieu ordonne qu'après 50 ans, c'est le jubilé. Puis, cette année-là, ils doivent retourner chacun dans leur terre là, pour que la distribution des tribus reste comme elle est, puis que les bornes anciennes ne soient pas déplacées. Mais il faut soit vendre une portion de terre ou en acheter une. Puis Dieu dit, tu vas le faire selon... le prix fixe, puis ça va être calculé selon le nombre d'années de récolte. Il dit, tu ne vas pas, je ne sais pas du mot exact, là, mais tu ne vas pas tromper ton prochain. Là. Tu ne vas pas escroquer ton abuser de ton frère. On serait tous tentés de le faire, surtout si c'est un grand peuple, Israël, là, puis peut-être que ce n'est pas nécessairement des amis. Là. Il dit, tu vas être juste au prix. En tout temps, c'est ça, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est encore, je dirais, d'autant plus important de ne pas frauder son frère Mais même envers les non-chrétiens, on devrait être parfaitement honnête. Puis même, des fois, c'est pas de la fronde. Légalement, c'est correct, mais c'est pas éthique, c'est pas moral. Mais bon, c'est un défi, parce qu'être différent de la société va forcément déplaire aux hommes. C'est pour ça que Paul nous avertit, puis il se donne lui-même un exemple, dans Galates 1. « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est une parole forte, là. On ne peut pas être serviteur de Christ. Oh, il n'avance plus. Est-ce que pour aller à la rescousse, il faut dégeler OBS? Mais c'est ça. Paul dit dans Galates que si il cherchait encore à plaire aux hommes, et même s'il plaisait encore aux hommes, ce ne serait pas normal. Ça voudrait dire qu'il n'est pas un serviteur de Christ. On ne peut pas chercher à la fois à plaire aux hommes et chercher à plaire à Christ. Ben, s'il y a un domaine aussi où on doit vraiment être différent du monde, c'est le domaine de l'argent. Ça s'en vient. Quelqu'un peut nous lire 1 Timothée 6, 10 et 11. Ouais, comme ça, c'est bon. Donc, il faut fuir ces choses-là. Le problème, c'est l'amour de l'argent. On a tous besoin d'argent, là, pour acheter des choses, pour vivre. Mais les gens dans le monde, sont presque obsédés par ça. Aussi, un passage important, c'est dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un d'autre peut nous lire, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Donc, ne pas se placer sous un joug étranger. Ou ne pas, dans ma traduction, ça dit ne pas former avec les incroyants un attelage disparate. On se met sous le même joug avec un incroyant. Donc, ne pas être en partenariat avec un incroyant. Est-ce que vous avez des exemples de partenariat où il faudrait éviter d'être avec un incroyant? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête où il faut particulièrement éviter ça? On ne peut pas éviter de côtoyer des non-croyants, là. On a des collègues de travail aussi.
Bonne chance.
Oui, c'est sûr. Et selon vous, est-ce qu'il y a certaines unions ou partenariats qu'il ne faudrait pas faire avec des incroyants? Sport. Ouais, moi aussi, j'avais listé ça. Comme être des co-chefs d'entreprise. On se part une business ensemble. Tu as des décisions importantes à prendre, puis c'est sûr que ça va entrer en conflit. Un autre exemple, il y en a peut-être d'autres qui vous viennent en tête, mais partenariat entre une église locale et des organismes. Et puisqu'on a une banque alimentaire qui est assez reconnue, puis on a des services de compteurs de vêtements, puis on aide la population avec différents services, ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y a des organismes qui veulent comme s'associer avec nous. Il y a même l'organisme Beaufaction de Rosemont qui voulait venir s'installer avec nous. Où il disait, vous achetez un nouveau bâtiment, on pourrait louer comme en permanence un coin. Mais là, on serait vraiment lié avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et même, je leur avais dit franchement, mais ils disaient, mais je ne comprends pas, on a la même valeur, on veut nourrir ceux qui ont faim. Oui, mais on ne le fait pas pour les mêmes raisons. Même nous, lorsqu'on nourrit ceux qui ont faim, on pense que s'ils ont plus besoin, c'est l'Évangile. C'est même pas la nourriture qu'on leur donne. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ça, puis même, ils trouvent ça ridicule. Mais si on s'associe avec eux, on sera obligé de faire des compromis, souvent. Donc, on peut travailler, on peut s'entraider, mais s'associer, c'est une autre chose. Ou s'associer avec un parti politique. Ici, justement, Vincent Marissal nous a tenter de nous séduire quelques fois, là. En tout cas, pour qu'on soit plus proche. Mais... Non, là, il s'en va, c'est ça. Mais, bon, c'est ça. Donc, il doit y avoir une séparation saine, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se couper complètement du monde. Bien sûr que non. Jésus dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nos bonnes actions, notre marche sainte, glorifier Dieu face à la société même. Un deuxième aspect qu'on voit aujourd'hui, c'est le sujet des fréquentations. Il y a un proverbe, je ne sais pas si on le dit partout dans le monde, là, mais en tout cas au Québec, qui se ressemble, s'assemble. Ça se dit ça dans d'autres coins du monde, hein? Ouais. Mais vous conviendrez que l'inverse est aussi vrai. Qui s'assemble, se ressemble. Et il y a un vrai proverbe, c'est dans la Bible, Proverbe 13:20, qui dit « Celui qui marche avec les sages devient sage, et celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » On pourrait même dire qu'il va devenir insensé à la longue. Donc, le choix de nos fréquentations et celle de nos enfants aussi a un gros impact. C'est vrai. Forcément, tu n'as pas le choix de te mettre d'accord avec ceux que tu fréquentes régulièrement. Hein? Tu peux pas toujours être en chicane. Là. Bien, quand on aime Dieu, c'est bon de fréquenter ceux qui aiment Dieu. De fréquenter, je veux dire, de côtoyer. Là. Psaume 119, 63 dit « Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent, de ceux qui observent tes statuts. » Au psaume 16, « Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes et les pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Donc, c'est comme un peu de favoritisme, un traitement de faveur, mais c'est bon. On aime ceux qui aiment Dieu. Et le Saint-Esprit va faire naître ça en nous, parce que le Saint-Esprit nous unit d'un lien qui est réel, mais en plus, on s'en aperçoit, là. On le voit par la communion fraternelle. Donc, il unit ceux qui aiment Dieu par des liens forts, et c'est comparable à des liens familiaux, des liens de sang. Et même, ça peut être plus fort. Jésus dit dans Matthieu 12, « En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc, les liens avec les frères et sœurs dans l'Église peuvent donner plus fort que même des liens de sang. Et c'est intéressant de voir que obéir aux prescriptions de Jésus fait de nous ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, si nous sommes les amis de Jésus parce que nous obéissons, bien, nous sommes les amis entre nous aussi. Nous sommes dans des liens fraternels, des liens d'amitié. Bon, on ne va pas élaborer trop longtemps sur la prochaine question, mais est-ce que vous avez une opinion? Comment on agit avec un membre de la famille tout à coup qui s'écarte, qui ne veut plus suivre le Seigneur? Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un frère, une sœur. Oui. Parfois, celui qui décide de suivre Jésus, il est comme obligé de renoncer à sa famille. Tu n'as pas le choix, surtout si c'est une famille qui est anti-chrétien. Alors, s'il est forcé de faire un choix, il doit choisir Jésus. Mais si tu n'es pas forcé de faire un choix, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, là, comme Paul dit. Ça peut arriver jusqu'à qu'il n'y ait plus de relation, malheureusement, avec un membre de la famille. Mais c'est ça, comme disait Mauricio, on ne renie pas le lien de sang, on continue d'aimer, mais on ne peut pas approuver les mauvais choix. Et même dire qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, même si c'est par amour qu'on va le faire, on se soucie du fait qu'il est sur la mauvaise voie. Et il faut aller jusqu'à souvent considérer, même de façon normale, considérer les liens avec les frères et sœurs de l'Église comme prioritaires. On ne peut pas négliger l'Église locale parce que tout à coup des membres de notre famille ne veulent plus suivre le Seigneur. C'est une priorité. Oui, on va voir un passage plus loin, mais ça, je pense que c'est une coche plus grave, je dirais. Il y a une différence entre quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur, on le côtoie, puis on essaie d'être un bon modèle, de l'évangéliser. Ou un frère qui s'est fait baptiser, qui a professé le nom de Christ, là, mais qui vit dans le monde, qui le renie par ses actions. Notre attitude, on ne va pas le condamner, là, mais on le désapprouve. Là, puis c'est une coche plus grave. Quelqu'un qui a connu Christ et qui s'en détourne, que quelqu'un qui ne s'est jamais converti. Puis notre rapport avec lui n'est pas le même. Ce n'est pas quelqu'un qui est potentiel de se convertir, c'est quelqu'un qui est en rébellion contre Dieu. On ne peut pas prendre la table du Seigneur, par exemple, avec quelqu'un comme ça. On ne peut pas aller prendre une bière tous les vendredis soirs avec lui. On ne peut plus côtoyer. Il y a une forme de discipline que nous-mêmes, on doit maintenir. C'est difficile, souvent, là. Mais ça, le message est assez clair dans le Nouveau Testament. On va voir des passages plus loin. Au niveau de ceux qu'on fréquente, parfois, c'est d'une manière indirecte. C'est ceux qui sont sur YouTube, sur TikTok, Facebook, les influenceurs. Et ils gagnent leur vie à influencer le monde. Qui devraient être nos influenceurs si on est chrétien?
Dieu.
C'est bon. Oui, puis si on parle des hommes, bon, ou des femmes, là,
les serviteurs de Jésus.
Oui. Quelqu'un pourrait lire 1 Corinthiens 16. C'est comme la conclusion de la lettre de 1 Corinthiens, puis il donne des recommandations, là. Verset 15 à 18. apprécier. Ceux qui peinent au service du Seigneur, même se soumettre à, ils ont un projet, on embarque avec eux, ils nous appellent pour aller évangéliser, on y va. Ils devraient être les principaux influenceurs pour nous. En Hébreux 13, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Donc, pensez à eux. Ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Ou 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs. C'est Paul qui disait ça. Pourquoi? Comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on imite les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qu'on voit qui marchent avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur. En le faisant, bien, on est en train d'imiter Christ. On imite Dieu. Mais, comme on disait, si on côtoie des mauvaises influences, on va être influencé. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au départ, on peut avoir des bonnes intentions, mais on est corrompu. Mon oncle, à un moment donné, il disait... Il expliquait pourquoi, qu'à toutes les fins de semaine, il allait dans un bar. Parce qu'il disait, je m'en vais évangéliser dans le bar. Ça n'a pas été long qu'il a abandonné le Seigneur. C'est lui qui s'est fait évangéliser. Bon, ça devait être une excuse au départ, là, mais même si on croit qu'il avait peut-être des bonnes intentions, il côtoyait des gens qui se saoulaient. Et il y a plusieurs recommandations, là, des gens qu'il est préférable de s'éloigner. Là, si on peut avoir 5 volontaires, prenez un passage au choix, là. On va les lire en rafale. Romains 16, OK. OK. 2 Thessaloniciens. D'accord, Josué. 2 Timothée. OK, Elisabeth. Puis 2 Jean.
Romains 16, 7, 8. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints.
Oui. Donc, en résumé, là, c'est quel genre de personnes qu'il faut s'éloigner ici? Pardon? Les manipulateurs. Et on les reconnaît à ce qu'ils causent des divisions. C'est ça. Ils cherchent à vous séduire pour que vous soyez avec eux, séparés des autres. Ils provoquent des divisions. Il faut s'éloigner d'eux. 1 Corinthien.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, non seulement frère, serait débauché ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou souverain, ou accapareur, ou même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans?
Mais ça va avec. Ah, c'est bon. Ça va avec ce que tu parlais tantôt, hein, Benjamin. Un frère qui vit dans le péché, il faut avoir une ligne plus dure. Parce qu'on est en train justement de porter un jugement sur son comportement, parce qu'il se dit frère. Mais les gens du dehors, on n'a pas à les juger. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est différent. 2 Thessaloniciens, c'est ça. Donc, il s'agit d'un frère qui doit être averti, qui doit être réprimandé. Et là, dans l'exemple, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre, qui ne travaille pas, qui vit aux crochettes de ses frères et sœurs, qui te sollicite toujours. À un moment donné, il faut couper. C'est pour son bien. Dans 2 Timothée, Elisabeth.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, sans parents, aucun, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu, prêtres, emportés, enfuis, vampires, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait. Éloigne-toi de ces hommes.
C'est ça. Là, on pourrait dire, il parle de tout le monde dans la société. Non, il parle de ceux qui ont l'apparence de la piété. Les faux chrétiens. On doit s'éloigner. Donc, même parmi les chrétiens, on pourrait dire, c'est une valeur sûre, c'est tous des gens qui vont à l'église. Pas nécessairement. Il faut avoir du discernement. Et 2 Jean. Donc, comment on peut qualifier cette personne-là? Qui on ne doit pas recevoir et dire salut? Oui, ceux qui... Ça peut être des fanatiques. Ceux qui ajoutent à la doctrine parce supposément qu'ils ont reçu une révélation, là, puis ils s'enseignent pas ce que Jésus a dit au Nouveau Testament. Ils ajoutent. C'est certainement dans de mauvaises intentions qu'ils le font. Il faut prendre garde, faut pas embarquer là-dedans. Donc, il s'agit encore de supposer chrétien. C'est là où on doit avoir une ligne plus dure. Maintenant, si on parle du sujet des amitiés, on parle de fréquentation, lorsqu'on est dans un couple marié, bien, chacun des époux doit faire de bons choix quant à ses amis. C'est important. Et bon, ça peut sembler être une évidence, mais d'abord, le couple lui-même devrait être la première amitié. C'est-à-dire que le mari devrait être le meilleur ami de sa femme et la femme devrait être la meilleure amie de son mari. Ça, c'est quelque chose qui s'entretient. Mais c'est sain, ça. Lorsque, dans un mariage, l'homme et la femme ne sont plus des amis, ça, c'est le début d'un éloignement, d'une séparation. Pour cela, il faut agir avec sagesse dans le choix des amitiés. Puis je vais vous proposer quelques conseils. Ne jamais considérer qu'une amitié qu'on a avec quelqu'un est plus importante que son couple. Donc, quand tout à coup on a une décision à prendre, un choix, bien, le couple doit passer en premier. Toujours. Important aussi de ne pas trahir la confiance de l'époux. Ça se voit, ça, malheureusement. Ou, je ne sais pas, moi, l'épouse, elle est fâchée contre son mari parce qu'il l'a traité injustement. Ou elle est irritée contre lui, puis là, elle va se confier à une amie. Cette amie-là va en parler à d'autres, puis là, ça fait du commérage, mais. Et quand le mari apprend qu'elle a raconté ce qui se passait à la maison à son ami, il peut être fâché. Et l'inverse peut être vrai aussi, là. L'homme, il parle avec ses collègues de travail, comment elle est son épouse, puis il manque de respect, là. Il trahit la confiance. Ça peut créer des blessures profondes. Ne pas favoriser aussi les... Bien, plutôt, favoriser les amitiés qui sont édifiantes. Il y a certaines... L'amitié, que même si c'est un ami d'enfance, c'est peut-être pas édifiant, là, c'est nuisible. Puis des fois, le conjoint, la conjointe peut être de bons conseils pour dire « cet ami-là, là, fais attention, il n'est pas bon ». Donc, une bonne règle, c'est de favoriser les amitiés qui plaisent aux deux conjoints. Puis une chose à éviter à tout prix, c'est une amitié individuelle avec une personne de l'autre sexe. Moi, je ne peux pas avoir une très bonne amie, puis je vais manger au restaurant avec elle. Mais Lady ne serait pas contente, là, puis avec raison. Et même si tu dis, c'est juste une amie, mais tu fréquentes quelqu'un de l'autre sexe pendant un bout de temps, là, puis un sentiment amoureux peut naître. Même peut-être pas chez toi, mais chez l'autre. C'est à éviter, là, à tout prix. Puis ça provoque la jalousie, en plus. Une jalousie qui est avec raison. Donc, il faut avoir de la sagesse, là, dans le choix de nos amitiés. Qu'est-ce qu'il y en a des jeunes maintenant? Ils sont célibataires, ils ne sont pas en couple. Mais là aussi, il faut agir avec sagesse. Puis en tant que parent, on peut donner de bonnes recommandations. C'est normal qu'ils aient des amis qui ne sont pas chrétiens. C'est une occasion d'évangéliser. Ils vont en côtoyer. Une occasion d'être une lumière, de briller. Puis c'est un bon exercice aussi d'apprendre à marcher en tant que chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Une bonne préparation pour plus tard. Mais une bonne règle qu'on propose, c'est que les meilleurs amis devraient être des chrétiens. Si un jeune dit « Ah, lui, c'est mon meilleur ami, c'est un non-chrétien, c'est un musulman, ouais. C'est pas bon. » C'est correct que ce soit son ami, mais son meilleur ami, là, celui avec qui il veut aller au cinéma ou qui veut passer un temps tout seul ou quand il est triste, il veut se confier, ça devrait être un chrétien. Pour ça, ben, les amitiés, ça ne va pas apparaître comme ça. Le groupe de jeunesse, c'est très important. C'est peut-être difficile pour les parents, des fois, là, tout un vendredi soir après une semaine de travail, là, d'aller les porter à l'église. T'aimes ça? Ah, c'est bon. Mais tu fais quand même le sacrifice de venir le vendredi soir. Ah, c'est pas un sacrifice, c'est bon, ça. Wow, on va t'engager pour faire de la publicité. Mais c'est très important. Les ralliements de jeunesse aussi, c'est bon. Là, ils voient toutes sortes de jeunes, là, chrétiens. C'est sûr qu'il faut avoir du discernement parce que c'est pas tous les jeunes qui ont l'étiquette chrétien qui le sont réellement. Ouais, ils doivent apprendre le discernement. Des occasions de travailler avec d'autres jeunes aussi. Comme ceux qui vont au staff au camp des boulots pendant l'été, là, ils en sortent grandis. Là. Vous venez servir au comptoir alimentaire ou dans le nouveau bâtiment. Mais tout ça, ça tisse des liens d'amitié. Je me souviens de chrétiens, lorsque j'étais à la jeunesse de l'Église de Sherbrooke, ceux parmi eux qui sont encore chrétiens, il y en a qui ont délaissé le Seigneur, mais c'est encore des amis. Quand on se voit, on est content de se voir. Là. C'est des amitiés durables. Et des bons points de repère. Mais, en tant que parents, nos amitiés vont avoir une influence. On enseigne indirectement à nos enfants. Et si tous nos amis, c'est des non-chrétiens, des gens qui n'ont pas d'allure, ben c'est ça qu'on enseigne à nos enfants. Ils vont nous suivre, ils vont suivre notre exemple. Un troisième et dernier point, c'est la question de l'espérance. Parce que c'est ce qui nous distingue des gens de la société. Mais c'est intéressant, dans 1 Thessaloniciens 4, Paul parle des gens de la société comme, il les appelle, les autres qui n'ont pas d'espérance. Et dans le contexte ici, parce qu'il dit de ne pas, lorsqu'on est en deuil, c'est normal de pleurer, mais ne pas sombrer là, dans la dépression, dans un deuil qui ne finit plus, comme les gens qui n'ont pas d'espérance, mais qu'on se console les uns les autres, à la pensée qu'un jour, ils vont ressusciter ceux qui sont décédés. Même aux yeux de Dieu, ils ne font que dormir, c'est temporaire. Mais les autres dans la société n'ont pas d'espérance. Donc leur espérance, c'est ici-bas. Et quand ici-bas, ça va mal, avec les guerres, la situation économique, bien là, tout s'écroule, c'est le désespoir. Ils peuvent avoir l'illusion d'un espoir, mais c'est vide. Et tout s'effondre facilement. Maintenant, quelle est notre espérance? Okay. Pouvez-vous me dire des éléments? C'est quoi l'espérance du chrétien?
La grâce de Dieu.
La grâce, oui. La vie éternelle. Oui. Pardon? Oui, c'est un bon point. Christ lui-même. Bien, j'ai relevé quelques passages qui parlent de l'espérance dans le Nouveau Testament, juste pour donner quelques expressions. Paul en parle dans Actes 24. Il a l'espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, il y a quelque chose après la mort. C'est pas vrai que quand on s'en va dans le cercueil, dans le cimetière, c'est fini. Sinon, bien, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Mais le chrétien sait qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. On sait que ça s'en vient. La création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Wow! Donc, les enfants de Dieu, ce qui les attend, c'est la gloire, et même cette création-là va y prendre part, va être délivrée. Donc, on a l'espérance d'une nouvelle création. Oui? Oui, c'est... Ah, je ne l'ai pas. Mais oui, c'est ça. Il est l'espérance de la gloire, c'est vrai. Et c'est, bien, comme notre espérance, c'est celle qui nous est réservée dans les cieux. On est dans Colossiens, donc ce n'est pas sur cette terre, c'est sur la nouvelle terre, dans le royaume des cieux. Jésus-Christ lui-même est notre espérance, et un jour, on va le voir. Ce n'est pas juste un personnage historique, mais un homme réel qu'un jour on va voir, et la vie éternelle, comme vous l'avez mentionné. Ça va tous ensemble, là? Oui? Oui. Profita.
L'esprit aussi, c'est dans l'actuel, dans la vie de chaque jour, on n'a pas placé notre espérance dans nos propres capacités, dans nos propres forces, dans nos... Comme le monde, tu sais, c'est tellement axé sur t'es capable, tu peux, ta vie, ta destinée, ton potentiel. Nous, c'est toujours dirigé vers Dieu, puis c'est tellement un fardeau de moins quand t'arrives à un moment donné les épreuves ou que ce soit des déceptions.
C'est vrai.
Ça repose pas sur nos propres forces.
C'est ça.
C'est toute une différence.
Mais là, t'as raison. Mais là, tu parles comme dans l'idéal parce que il y a un spectre là-dedans, si on peut dire. Le chrétien devrait être comme ça, mais parfois, on se comporte comme le monde et tout à coup, on tombe dans le piège de se fier sur nos propres forces.
C'est là que le Seigneur nous ramène à l'ordre.
C'est ça. Mais c'est une bonne mesure. Donc, la priorité dans nos vies, nos décisions, là où on investit, ça va montrer à quel point on a l'espérance ou la foi. Puis pour ça que Paul y prie pour que les chrétiens à qui il écrit, là, qu'ils comprennent tout l'amour de Dieu, là, qu'ils aient une pleine espérance. Là, ça change tout. Mais si on s'endort, si on n'est plus en train de veiller, on le perd de vue, ça. On oublie qu'il y a une vie après la mort, puis tout à coup, on s'illusionne, on retombe dans le piège de penser que c'est maintenant. Et notre vision du monde, c'est ça qu'on va transmettre à nos enfants. Ils regardent quelles sont nos priorités dans la vie. Ils vont naturellement adopter les mêmes priorités, à moins qu'ils se remettent en question, là, qu'ils brisent le pattern, mais sinon, c'est ce qu'on transmet. Donc, si notre espérance n'est pas réelle ou elle n'est pas pleine, nos priorités seront comme le monde. Et dans le monde, les priorités, c'est la carrière, des choses qui sont à la base bonnes, mais si c'est ton but dans la vie, la carrière, ben tout à coup, c'est plus Christ, là. Ton salaire, les possessions matérielles, donc la voiture, la maison, le chalet, les loisirs, les voyages, la renommée, il y en a qui cherchent d'avoir le plus de followers là, sur les réseaux sociaux, la réussite dans les projets, le développement du potentiel. J'ai potentiel d'aller aux Jeux olympiques, ou j'ai potentiel d'être un virtuose du violon, ou j'ai potentiel d'être un chirurgien cardiaque. Si je ne développe pas ça, je suis en train de rater, d'échouer une opportunité dans ma vie. Là. Les gens du monde vont penser comme ça. Mais un chrétien peut prendre la décision de ne pas faire ça, par choix. Parce que c'est pas toute la vie. Si on pense que seulement à notre vie sur la terre, oui, ça sera la priorité, c'est sûr, sinon on est en train de gaspiller le peu d'années qu'on a à vivre. Mais le chrétien qui a l'espérance va voir que ces choses-là sont secondaires. Et il va s'y investir si ça glorifie Dieu, si ce n'est pas insensé. Et c'est intéressant, le Nouveau Testament insiste beaucoup là-dessus, de vivre selon notre espérance chrétienne. On ne sait pas simplement quelque chose d'intellectuel, de théorique, quelque chose qui doit influencer notre vie, nos décisions de tous les jours. Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » C'est radical, hein? 1 Pierre 1,17, « Ici, vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. » Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Wow! C'est même pas notre lieu d'habitation finale. On est là juste de passage. On est en séjour sur la terre. Notre vraie destination, c'est de rencontrer le juge. Le Très-Haut, qui juge sans considération de personne, sans favoritisme. Et au chapitre 2, Pierre dit, « Bien-aimé, je vous exhorte, en tant qu'étranger et voyageur, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Il y a une guerre, puis si on oublie qu'on est en guerre, on se fait attaquer, on se fait vaincre. Là. Donc, on doit se voir comme des étrangers, des voyageurs, des gens de passage, des résidents temporaires. En Romains 12, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, d'offrir toute notre vie au Seigneur. Et pas juste de faire une place dans notre vie, c'est de lui offrir toute notre vie. Et c'est pour ça qu'au verset suivant, il dit « Ne vous conformez pas au monde présent. » Ça demande vraiment de changer notre façon de penser. Et c'est pas naturel. C'est le Saint-Esprit qui va produire ça en nous. Et le fait de côtoyer des frères et sœurs aussi, on s'influence dans la bonne direction. Un dernier passage, c'est Hébreux 11, si quelqu'un peut nous lire. Hébreux 11, versets 13 à 16. Donc, c'est des exemples de personnages dans l'Ancien Testament, dont Abraham, qui aspirait à une patrie meilleure, une patrie céleste, d'être auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont pu renoncer à avoir une cité permanente sur la terre. Pour eux, c'est un sacrifice qu'ils ont fait avec joie parce qu'ils aspiraient à quelque chose de futur. Même, ils ne l'ont même pas obtenu pendant leur vie. Donc, vraiment, c'est après la mort. Donc, c'est par la foi qu'on peut maintenir cette espérance-là. Parce qu'on n'a pas de preuve tangible. La preuve qu'on a que ça en vient vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné comme un gage, un premier dépôt. Donc, en conclusion, les chrétiens forment ensemble, on peut voir comme une nouvelle société, une société qui a comme infiltré la société du monde. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints. Donc, par rapport au monde, on est juste des gens de passage, mais en réalité, on n'est pas sans patrie, on en a une patrie. C'est le peuple saint de Dieu. On est des concitoyens, des membres de la famille de Dieu. Pour un temps, nous sommes toujours dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Il faut se le rappeler. Et il y a des choix importants de famille qui doivent être faits en fonction de cette vérité-là. Comme on l'a vu, le choix de nos fréquentations, le choix des priorités dans la vie, nos valeurs familiales, ce qu'on va mettre en avant, comme en disant à nos enfants, ça c'est important. Mais on doit considérer là, que notre vie, on est seulement de passage ici. Garder l'espérance en vue. Quelqu'un voudrait prier pour conclure, s'il vous plaît?